Bonjour à tous, à toutes. Merci pour ce face-à-face dont tu nous as parlé dans un lieu inattendu, à un moment inattendu. Mais deux faces qui se sont connues se sont rencontrées et je trouve que c'est toujours émouvant. Eh bien, chers amis, vous qui êtes là ce matin et vous qui nous écoutez via les médias, j'ai une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Après IBM, après Amazon, c'est Meta qui a annoncé en fin de l'année dernière, 2021, l'abandon de l'utilisation de la reconnaissance faciale sur Facebook. Cette fonctionnalité permettait de reconnaître automatiquement le visage d'une personne quand elle passe à n'importe quel endroit et qu'elle pouvait être affichée sur le téléphone. Mais ce qui m'a surtout étonné quand j'ai lu cette nouvelle, c'est que quand on a abandonné cette fonctionnalité, on a dû supprimer 1 milliard de comptes de profils qui ont utilisé la reconnaissance faciale. Cette décision est à contre-courant, parce que dans beaucoup de pays, et notamment en Chine, la reconnaissance faciale est quelque chose qui est très courant et très répandu. Cette reconnaissance faciale a été mise au point et on a eu la possibilité de l'utiliser sur Facebook depuis 2010. Pour l'instant, Meta abandonne cette fonction sur Facebook, mais cette société continue à travailler pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité lorsque elle jugera que les bénéfices l'emportent sur les risques. Or, quels étaient les risques? Mais les risques étaient les suivants, c'est que quand on avait un visage qui était relié à un compte, ben on savait ce que ce visage aimait, où ce visage habitait, quel était le numéro de téléphone de ce visage. Merci Facebook. Meta n'était pas le seul à s'être émouvoir là-dessus. Beaucoup de sociétés, une cinquantaine de sociétés qui gèrent environ 500 milliards de fonds, ont demandé aux sociétés de leur groupe d'être très vigilantes sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. C'est parfois agréable d'être face à face, mais parfois ce face à face peut devenir terrifiant. Nous sommes à 15 jours de la fête de Pâques. Et j'aimerais ce matin avec vous, si vous me permettez pendant une vingtaine de minutes, essayer de voir 3 face à face qui se sont déroulés le vendredi saint. Marc nous dit ceci: il y avait là aussi quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le jeune et de Jos, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et je me suis posé la question, ces femmes qui étaient face à cette croix, face à ces 3 croix, face à ces 3 visages qui souffraient, qu'est-ce qu'elles pouvaient penser? Quels pouvaient être leurs sentiments? Que pouvait-il se dégager de la face tuméfiée, ensanglantée de ces souffrants? Que pouvait-elle retenir de ce face-à-face, même si Jésus était au milieu? Pourtant, cette face, qui aujourd'hui est déformée par la souffrance, les a accompagnés avec tendresse et bienveillance, nous dit Marc, depuis la Galilée. Pensait-elle que dans 3 jours, dans 3 petits jours, elle pourrait revoir cette face de nouveau et de nouveau réjouie? Pouvait-elle imaginer que cette face les accueillerait dans le royaume des cieux? Derrière cette face souffrante, pouvait-elle, osait-elle voir la face du Fils de Dieu? Tout cela pour nous reste un mystère. Pourtant, toutes, et une en particulier Marie, ont décidé, après le coucher du soleil du sabbat, d'aller prendre soin de cette face qui les a marqués, cette face souffrante. Mais voilà, Marie, pouvait-elle imaginer un seul instant être face à face avec Jésus sans le reconnaître? Ce dimanche matin, elle est hébétée. Elle ne reconnaît pas la face. Elle est encore marquée par ce qu'elle a vu vendredi. Est-ce que elle n'a pas reconnu la face, ou est-ce que c'est parce que Christ soit vivant ne lui paraissait pas plausible? Pourtant, quelques jours, peut-être quelques semaines, je ne sais pas combien de temps avant, son frère, même Lazare, est sorti du tombeau. Comment se faisait-il qu'elle ne pouvait pas superposer sur la face souffrante cette face radieuse qui lui parle? Eh bien, je crois que le face-à-face de Marie avec Jésus en croix annonce un tout petit peu notre condition. Notre condition où nous ne voyons pas la face de Jésus. Pour la voir, il faut que nous utilisions les yeux du cœur. L'apôtre Paul dit, en utilisant les yeux du cœur, nous voyons comme à travers d'un miroir, partiellement. C'est notre condition aujourd'hui. Il y avait là aussi un autre personnage. L'officier romain qui se tenait en face de Jésus, lui aussi est un des protagonistes de ce face-à-face. Que pouvait-il voir du haut de son cheval? Une face souffrante avec un écriteau au-dessus, le roi des Juifs, que cette nation doit être misérable pour que son roi soit en croix, pouvait-il se dire. Jamais il ne pouvait imaginer César, son roi, son empereur, dans cette posture. Et qu'est-ce qu'il entendait autour de lui? D'une part, les colibés, les injures de la foule, et d'autre part, cette face souffrante qui priait et qui prononçait ces mots: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Décidément, cette nation et ce roi sont étranges. Puis tout à coup, la terre a tremblé. Tout à coup, les ténèbres ont envahi la terre. Tout à coup, les choses se sont précipitées. Et il entend cette face qui crie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, tout officier qu'il était, cet homme est saisi d'effroi. Chose étrange, il ne pense plus à la comparaison avec César. Aucune comparaison avec la face de César ne lui paraît appropriée. Une exclamation monte de ses lèvres, du cœur vers ses lèvres. Il ne peut l'étouffer, il s'exclame et il dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Son face-à-face avec le Galiléen l'a complètement bouleversé. Cette face endolorie lui permettait de voir, et c'est extraordinaire, bien que de façon voilée, bien comme dans un miroir, que c'était la face d'un fils de Dieu. La lumière intérieure, celle du cœur, qui éclairait cet officier romain, lui a permis de reconnaître que devant lui, il y avait le Fils de Dieu. Il n'avait pas Facebook à son service, il avait juste les yeux de son cœur. Le troisième face-à-face que je voudrais évoquer avec vous, c'est le face-à-face des deux criminels qui ont été crucifiés avec Jésus. Eux aussi, ils avaient leur face-à-face avec Jésus. La foule était séparée de Jésus et cette face les a séparés eux aussi. L'un d'eux va dire « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous aussi avec. » Parce que ses yeux du cœur ne voyaient rien de plus qu'en souffrant. Et c'est assez extraordinaire. L'autre, son compagnon, malgré la souffrance, malgré l'agonie qui était celle de Jésus et qui était aussi la sienne, eh bien, il a pu, dans ce face-à-face, voir une face qui donnait à espérer. Une face qui donnait à espérer. Alors, il a cette phrase étrange. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Alors, il y a une réponse inespérée aussi qui résonne. Vraiment, je te l'assure, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, j'ai évoqué trois face-à-face. J'aurais pu évoquer bien d'autres. Le face-à-face entre le crucifié et la foule, le crucifié et le chef du peuple, le crucifié et le disciple bien-aimé, le crucifié et sa mère. Mais je voulais évoquer ces trois face-à-face parce que d'une façon très différente, ils peuvent me concerner quand je contemple cette figure de Jésus que je ne vois qu'à travers un miroir et de façon obscure encore. Voilà que le jour de la résurrection, Marie s'est trouvée face à face avec Jésus. Voilà que l'officier, nous n'avons plus de nouvelles, il s'est noyé dans la foule. Voilà que les deux brigands ont été mis dans la fosse commune. Mais je voudrais maintenant mettre ces trois face-à-face dans une perspective. La perspective dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 1er, le verset 7, le texte nous dit « Regardez, il vient parmi les nuages ». Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Le reconnaîtront-ils? La parole de Dieu ne répond pas à cette question, mais j'aime toutefois imaginer ces femmes dans la joie, dans le bonheur, de voir que ce visage les regarde avec le même amour, ce visage qui les a accompagnées tout le temps. J'ose imaginer ce officier romain sans son cheval, fasciné devant le Fils de Dieu qui vient en gloire, et une gloire qui est bien supérieure à celle de César, et ce brigand tout ému, il commence seulement à comprendre ces mots clairs, obscurs, à la fois, vraiment, je te l'assure, tu seras avec moi dans le paradis. Lorsqu'il a entendu ces paroles, le sens de ces paroles lui échappait parce que sa souffrance était grande. Maintenant, tout s'éclaircit. Ce n'est plus au moyen d'un miroir. Ce n'est pas d'une façon confuse, mais d'une façon claire qu'il voit la promesse se réaliser. Je voudrais maintenant nous questionner nous-mêmes. Lorsque nous regardons la face de Jésus, chaque jour de notre vie, comment la voyons-nous? Quand tout va bien, cette face nous semble aimante, cette face nous est agréable. Quand les événements de la vie sont moins favorables et que nous sommes tourmentés, comment voyons-nous la face de Jésus? Quand l'angoisse nous étreint, comment voyons-nous la face de Jésus? Quand nous serons face à Jésus lors de son grand retour, son vrai espace, son vrai temps, nous comprendrons et nous aurons aussi une joie immense de savoir qu'il était là quand les moments étaient bons et quand les moments étaient plus durs. Si parfois nous avons l'impression qu'aujourd'hui nous voyons que d'une manière indirecte, comme à travers d'un miroir, nous pouvons être rassurés par la deuxième partie de la phrase de l'apôtre Paul, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais que d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En ce temps de Pâques, c'est l'espérance de ce face-à-face que je voulais évoquer pour vous, parce que c'est, je crois, le moment propice d'imaginer Jésus revenir sur les cieux, sur les nuées des cieux, parce qu'il a vaincu la mort. Je voudrais terminer juste par un petit souvenir personnel. En 1989, j'étais en ex-Yougoslavie et j'étais à côté du cercueil de mon père qui gisait là, le visage apaisé, bien que sa mort a été très difficile, il a beaucoup souffert. En Yougoslavie, à cette époque-là, on ne connaissait pas encore les soins palliatifs. J'ai essayé de m'imaginer quel aspect aura cette face de mon père lorsque Jésus reviendra et que nous serons ressuscités l'un et l'autre face à face. Il va nous rappeler à la vie, pas n'importe quelle vie, à la vie éternelle. Et je pense que malgré tous mes efforts que j'essayais de faire pour imaginer cette face, j'ai certainement eu tout faux. Et j'ai certainement encore tout faux. Ce qui me console, c'est que, un peu comme pour Marie, peut-être que je ne reconnaîtrai pas la face de mon père tout à coup. Mais peut-être que je l'entendrai parler et que cette voix me dira « c'est bien lui, il n'y a pas de doute ». Nous serons alors réunis dans le pays où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de mort. À nos côtés, il y aura d'autres visages qui nous manquent maintenant, qui me manquent, qui vous manquent. Je ne peux pas tous les évoquer, mais je voudrais juste évoquer un dernier face-à-face qui résume le tout du paradis. C'est le face-à-face avec Jésus. Je serai peut-être quoi, mais peu importe, car lui, dans sa tendresse, me dira « Tu t'es montré fidèle un peu de choses. Viens partager la joie de ton maître. » À chacun d'entre vous, je souhaite ce matin de vivre ce moment, d'entendre ces mots, d'être face à face avec Jésus et de savoir que ça sera pour toujours. Je voudrais vous laisser maintenant avec Georges Frédéric Hendel, qui a essayé de mettre en musique ce face à face lors de la résurrection. Père, je voudrais te rendre grâce, du fait que tu nous accompagnes chaque jour. Je voudrais te remercier, Père, de ces face-à-face que tu as permis aux évangélistes de nous les rappeler dans leurs écrits. Ces face-à-face, Seigneur, qui sont contrastés comme une autre vie. Ces face-à-face, pourtant, qui les ont, pour certains d'entre eux, poussés à aller jusqu'au bout et croire en ta parole, croire en ta promesse. J'ai du plaisir à imaginer que ce brigand, quand il a entendu ta promesse qu'il sera avec toi dans le paradis, qu'il est mort, Seigneur, sur cette croix, apaisé. Lorsque nous sommes écartelés dans notre vie, lorsque nous souffrons, Seigneur, je te prie de nous laisser entendre cette voix. Tu seras avec moi dans le paradis pour que cette promesse, Seigneur, puisse tous nous fortifier et nous aider à aller de l'avant. En Christ, nous t'en prions. Amen. Je voudrais vous laisser pour cette semaine ce texte qui conclut la Bible. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen.